Bonjour, vous écoutez bien Radio Canu 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu FO de ce lundi 20 mai 2013 avec Jean-Pierre dans les studios, Robert en duplex. Lundi 20 mai 2013, en soi, c'est une date neutre, mais si on commence à dire que c'est le jour qui fut férié, qui ne l'est plus tout en l'étant encore du lundi de Pentecôte, ça appelle quelques commentaires, n'est-ce pas?
Eh oui, 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 on est effectivement dans le retour sur ce qu'est la charité publique, puisque c'est une décision publique, un décret d'application qui en son temps avait été pris par la droite et qui visiblement ne déplaît pas du tout aux socialistes, puisque la ministre en charge du dossier s'est félicitée aujourd'hui de la rentrée de 2,5 milliards à peu près, et qui vont aller donc dans les caisses de l'État, puisque c'est une journée qui est pour qualifier ce genre de
qui
situation.
Est travailler sans être payé au travail.
Oui. Bon, c'est oui, voilà, journée de travail où le fruit du travail, c'est-à-dire l'équivalent de paye, va directement dans les caisses de l'État. Pas directement, mais évidemment, c'est les entreprises d'administration. Alors, la subtilité qui avait été adoptée, c'est que finalement, tout le monde n'était pas obligé de donner sa journée aujourd'hui, c'est-à-dire pouvait ne pas aller travailler. Et on considère que c'est à peu près 20% des salariés sont allés aujourd'hui au travail. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire, les 80%
d'autres? Les autres, on va leur retirer sur la RTT, voilà. On va leur faire des jours un samedi ou une semaine où il y aura des jours à récupérer. Mais enfin, le fond de cette affaire est le plus scandaleux. On l'a dit ici depuis le début, je sais plus en quelle année ça a été instauré. C'est qu'en fait, c'est une attaque de la droite contre les 35 heures, quoi, qu'ils n'avaient pas, qu'ils ont toujours pas digéré. C'était une manière de grignoter un peu quelque chose de la réduction du temps de travail, hein, cette affaire du lundi. Hein. Moi, je l'ai surtout ressenti comme ça, puis je continue de le ressentir comme ça.
Oui. Mm-hmm. Ce qui rend plus déplorable l'attitude des socialistes qui cautionnent cette entreprise qui met en cause, comme tu l'expliques, là, des acquis importants de la période Jospin, socialiste d'avant. Et deuxième point, alors là, c'est au niveau de l'argent. Que devient cet argent, 2,5 milliards tous les ans qui tombe? On nous dit que c'est pour préparer une bonne vieillesse alors que l'âge de la vie se prolonge. En fait, on sait pas vraiment, et on est sûr de rien en ce qui concerne l'usage de cet argent. Je sais pas si toi,
j'ai même oublié, à un moment, il y avait eu des affectations, des discussions. Enfin, c'est un coup qu'on nous fait périodiquement, hein. On nous avait fait le coup avec la vignette auto il y a fort longtemps. C'était un peu pareil, ça devait aller, je ne sais plus à quelle caisse de retraite, et finalement, ça a été noyé dans la masse. Et là, je crois que c'est un peu pareil. Alors, peut-être ça sert à renflouer le déficit des caisses de retraite de la Sécu, mais on a du mal à nous donner un bilan chiffré. Je sais pas ce que fait la Cour des comptes là-dessus. Faudrait peut-être regarder les rapports si elle vérifie comment est utilisée la somme colossale que représente cette journée de travail non payée. Ça a des relents esclavagistes, ça, qui sont tout à fait désagréables. Quant à la charité, elle commence bien par soi-même, puisque c'est l'État de droite et maintenant l'État de gauche qui encaisse cette charité soi-disant faite pour l'ensemble de la communauté nationale.
Voilà, on sait pas si d'autres pays, on peut penser qu'ils n'ont pas cherché à copier.
Ils n'ont pas les 35 heures.
Cette grande lumière française, pays des lumières. Enfin, on n'a pas d'écho là-dessus, hein, mais il est probable que ça doit bien exister également ailleurs, sous des formes peut-être encore plus discrètes.
Allez, rubrique internationale, voilà. Peut-être, hein, on va parler, ben, la Tunisie est une actualité chaude, c'est pas qu'il se soit passé des choses extrêmement importantes, encore que, donc samedi, une manifestation, un congrès, ils avaient appelé ça, enfin une réunion des salafistes du groupe Asal El-Sharia. El-Sharia avait décidé, annoncé qu'ils se réunissaient à Kairouan, c'est à 2 heures de Tunis. On attendait 40 000 personnes. Finalement, le pouvoir tunisien islamiste, mais dit modéré, avait décidé que cette réunion ne devait pas se tenir. Il a déployé des forces de police et d'armée, même sans doute considérables sur le site, filtrant les arrivants, ainsi de suite. Du coup, il semble que la réunion à Kairouan ne pouvait pas se tenir, mais une bonne manipulation peut-être aussi des salafistes. Ils ont au dernier moment invité leurs militants à se rendre non pas à Kairouan mais à Tunis et à faire la manifestation dans une zone populaire et pauvre de Tunis. Et là aussi, affrontement avec la police. Au minimum, il y a un bilan avec un mort et une quinzaine de blessés. Alors politiquement, ce qui est le plus presque surprenant là-dedans, c'est cette volonté d'un pouvoir islamiste légal, on va dire, de s'en prendre à des gens qui sont beaucoup plus radicaux dans leur tendance et d'essayer de bloquer leur influence en les voulant apparemment les décourager de manifester et de réclamer des mesures plus radicales qui vont dans leur sens, quoi. Là-dessus,
oui, c'est une aubaine également pour Ennahda, donc qui est au pouvoir, parce que ça permet à ce parti d'apparaître modéré et puis d'être finalement au centre. C'est-à-dire qu'il a une droite islamiste dure, et puis il a une gauche également qu'il estime trop demandeuse en termes de réformes et de réformes sociales, et qu'il contre sur beaucoup d'aspects, des aspects qui d'ailleurs recouvrent aussi le débat sur les implications religieuses liées notamment à la charia. Donc c'est pas une mauvaise opération pour Ennahda, et on peut penser qu'il saura ce pouvoir en profiter largement pour renforcer sa propre autorité et faire passer des lois que dont la gauche justement ne voulait pas.
Voilà, marginalement, mais j'ai trouvé ça tellement rigolo, nos auditeurs savent qu'on pourrait quelquefois se permettre d'avoir des complexes par rapport aux grands médias nationaux et aux grands journalistes, par exemple ceux de France Culture. Eh bien, ce midi, il était assez désopilant d'entendre un certain Mercier dans les infos déclarer que le président Bourguiba était toujours à Paris en voulant parler de Bouteflika. Rien de moins, hein. Et il n'y a eu personne pour corriger, ni pendant, ni après. Hein. Donc Bourguiba a dû se retourner un petit coup dans sa tombe, et c'était assez marrant, mais bon, ça passe, ce genre de truc. Ben, nous, à Canu, on s'en permet pas d'être comme ça.
Il l'a répété plusieurs fois.
Une fois, mais vraiment. Et alors, il doit y avoir personne qui écoute l'antenne dans les studios là-bas pour lui dire que non, faut corriger. Oui. C'est passé.
Il y a peut-être des auditeurs qui ont appelé, mais ça n'est pas arrivé jusque à la table des micros.
Des micros. Allez, c'était un petit truc en rigolant, mais enfin, comme quoi, faut pas trop avoir de complexe.
Non.
La Syrie, ça bouge aussi. Alors, l'Assad semble reprendre le dessus. Maintenant, en tous les cas, dans une ville qui était aux mains des rebelles depuis un moment, à Al-Qusayr, 10 kilomètres.
Qusayr. Je ne sais pas comment il prononce, parce que c'est une écriture.
Al-Qusayr, à 10 kilomètres du Liban, près de la frontière, et cette ville qui est un point important de jonction entre le Liban et Homs, a été attaquée et finalement, on croit savoir, reprise par l'armée régulière. Avec force bombardement et opération sur le terrain, quoi. Il y aurait eu au moins 52 000 morts civils dans les bombardements. Alors, l'armée régulière,
combien tu dis
52 morts annoncés avec la plupart des civils. Donc une armée régulière est appuyée par le Hezbollah, donc contre les milices sunnites qui se s'oppose donc à cette armée régulière, mais là peut-être c'est un recul et peut-être ça va être un basculement du conflit. Ce à un moment où la conférence de juin qui approche du conférence des vœux des Occidentaux et même des Russes aujourd'hui, qui approche de plus en plus au point de vue date, a aussi de plus en plus de plomb dans l'aile parce que le Conseil national syrien, donc les opposants déclarent qu'ils ne viendront pas si Bachar y va, l'Iran est, la viendra peut-être, mais la France est contre, la Russie est pour. Enfin, cette conférence se présente pas sous les meilleurs auspices. Quant à Bachar el-Assad, il déclare carrément que cette conférence n'a pratiquement aucune chance d'aboutir à quoi que ce soit. Nous voilà donc sous des augures pas très optimistes quant à, et peut-être aussi le fait que Bachar el-Assad reprend un peu de la main sur le terrain, ne n'incite pas à négocier. C'est bien connu qu'on négocie pas quand on se sent en position de force.
Oui, mais ça maintenant, je crois que l'ensemble des observateurs, qui pourtant généralement sont plutôt favorables à l'opposition armée, reconnaissent ou disent que celle-ci perd des positions et est affaiblie actuellement dans sa lutte pour la conquête du pouvoir. Alors effectivement, ça pouvait être un argument, ça l'a été aussi, et ça leur reste sans doute un argument pour exiger que la communauté internationale, en fait la communauté internationale c'est une partie, hein, c'est l'Occident du Nord, de l'Europe et des États-Unis, plus quelques autres qui sont pour appuyer, mais qui pour l'instant refusent effectivement de fournir en armes, ne sachant pas dans quelles mains ces armes vont tomber. Ce qui est peut-être le plus intéressant à considérer, c'est que on est à moins d'un an de l'élection présidentielle et législative, hein. Je crois que ils font les élections en même temps, un peu comme maintenant ça se fait un peu partout, en Syrie. Et que maintenant l'enjeu pour les grandes puissances, c'est effectivement de préparer sous un contrôle strict international une élection pluraliste libre en Syrie. Et c'est sans doute ça maintenant l'enjeu. Il y aura pas de vainqueur ni de vaincu sur le plan militaire. On a toujours dit partout qu'il fallait une solution politique. La solution politique, eh ben, elle va s'imposer d'elle-même à l'occasion donc des élections de l'aide du printemps prochain, 2014. Alors là, ça sera effectivement le plus difficile, et notamment, bon, on ne sait pas si Bachar sera candidat ou s'il ne le sera pas. De toute façon, le pouvoir en place aura un candidat, lui ou un autre. Mais par contre, du côté de la rébellion, ça va être très très difficile de trouver un candidat consensuel, par exemple. Et ce qui effectivement peut permettre au candidat sortant de garder le pouvoir, alors peut-être avec donc une autre figure. Peut-être que Bachar doit être un peu fatigué malgré son jeune âge. Des gens disent il a un frère qui pourrait être candidat, mais le frère il est beaucoup plus, non pas discrédité, mais il est beaucoup plus craint parce que c'est un peu le chef des armées, le frangin de Bachar, et donc si c'est pour mettre les militaires carrément les militaires au pouvoir, ça serait pas forcément une grande avancée démocratique en Syrie. Mais c'est bien là maintenant que les choses vont se passer et que cette conférence, elle avait simplement faire le bilan de la situation et puis préparer préparer dans des conditions démocratiques l'élection de l'année prochaine. Mais comme tu l'as dit, ça n'est pas encore fait. Dernier point, c'est à propos de la présence des Libanais du Hezbollah, qui sont très présents. On dit que ce sont eux qui ont fait les frais de la prise de la ville dont on parlait tout à l'heure, parce qu'ils étaient en première ligne. Et alors, ce qui est le paradoxe, c'est qu'on se souvient qu'il y a 15 jours, 3 semaines, les Israéliens ont bombardé dans les environs de Damas des matériels militaires, y compris des fusées modernes, qui étaient destinés à aller renforcer l'armée du Hezbollah au Liban et non pas en Syrie. Et en fait, on l'avait dit à l'époque, l'argument des Israéliens tenait pas la route, parce qu'en fait, c'est le contraire qui se passe. C'est-à-dire que c'est pas les Syriens qui viennent aider le Hezbollah au Liban, mais c'est le Hezbollah du Liban qui prête main forte actuellement aux Syriens.
Oui, mais Israël, depuis, a déjà déclaré qu'ils entendaient continuer à faire le nécessaire pour que le Hezbollah iranien ne puisse pas venir en aide à la Syrie, quoi. Donc on peut s'attendre...
Les Iraniens, c'est autre chose encore, hein. Le Hezbollah, c'est le Liban. Hein,
Il y a une certaine collusion entre les deux, quoi.
Oui, une présence des troupes, des gardiens de la révolution iraniens qui sont sur place également en Syrie maintenant.
En livraison d'armement aussi.
Oui.
Voilà pour ce sujet. Vous parlez d'élection. Ben, dans un mois à peine, il y a élection en Iran. Et là aussi, c'est une affaire qu'il va falloir suivre. L'Iran va-t-il remplacer Ahmadinejad par quelqu'un de plus fréquentable, entre guillemets, pour les Occidentaux? En tous les cas, pour le moment, on observe que le pouvoir verrouille un petit peu, puisqu'il a fermé Internet de plus en plus et créé depuis début mai un intranet, c'est-à-dire un Internet qui fonctionne pas en dehors des frontières de l'Iran, quoi. Ils font un peu ce que les Chinois ont également fait pour censurer la liberté de parole et d'expression qui vient de l'extérieur.
Ben c'est surtout effectivement contrer les prises de contact entre l'opposition en exil et puis ceux qui sont à l'intérieur. Mais en fait, on a vu que le conflit, il est interne au pouvoir, que c'est très très dur entre ce qu'on appelle improprement, à mon avis, parce que où passe la ligne entre les conservateurs et les réformistes, c'est pas très évident en Iran. On a toujours besoin en Occident rationaliste de vouloir faire bien catégoriser les la situation. Mais il y a aussi effectivement tous ces exilés qui effectivement d'une manière ou d'une autre ont envie d'intervenir dans le processus électoral du mois prochain. Et donc, comme tu dis, on a peut-être coupé l'accès, on a sûrement même coupé l'accès à ces gens-là, mais pour ceux qui, de l'intérieur, voudraient savoir ce qu'on compte faire à l'extérieur. Mais il faut bien reconnaître qu'il n'y a pas du tout d'opposition organisée à l'extérieur. La seule opposition, elle date, c'est celle des Moudjahidin du peuple, qui constituent une force, mais qui est très très surveillée, qui a même été pendant un temps considérée comme terroriste par les puissances occidentales. Elle ne l'est plus. Elle a été longtemps présente en France, notamment du côté de dans la région parisienne, du côté de Pontoise. Elle est beaucoup plus dispersée. Elle est même neutralisée en partie lorsqu'elle était en Irak, et après la chute de Saddam Hussein, elle a été neutralisée. Enfin, c'est la seule opposition qui elle pouvait effectivement encore peut-être faire peur aussi bien aux conservateurs qu'aux réformistes en Iran.
Voilà, autre sujet international, enfin j'en ai aussi, mais tu as peut-être quelque chose dont tu souhaitais parler là à l'instant.
Bon, si on reste dans, simplement en un mot, si on reste dans le secteur, parler de la décision que vient de prendre Israël, une fois de plus, une décision négative qui consiste à refuser à l'UNESCO une mission qui devait se faire à Jérusalem-Est et qui n'avait pour objectif de ce qu'est l'émission de l'UNESCO, c'est-à-dire à partir des sites antiques historiques de Jérusalem-Est. Et naturellement, Israël veut faire payer, dit-on, à l'UNESCO, mais plus généralement à l'ONU et à sa commission sur les droits de l'homme, de ce qu'avait été la déclaration notamment de Carla Del Ponte, même si cette déclaration ensuite a été plus ou moins infirmée officiellement par le secrétariat de l'ONU, il n'empêche que ça a quand même été dit et que pour beaucoup de gens c'était le reflet de la réalité, c'est-à-dire la situation, enfin le comportement colonialiste d'Israël. Voilà, c'était cette parenthèse qui s'applique, hélas, au même secteur.
Un mot sur la Birmanie, où aujourd'hui, presque à l'heure qu'il est, le président Thein Sein est reçu par Obama. Alors, une tentative de rapprochement entre la Birmanie et les Américains, est-ce le signe d'une transition politique, est-ce simplement la volonté à la fois des Américains et peut-être du pouvoir des Américains de vouloir un petit peu contrer ou limiter l'influence de la Chine en Asie du Sud-Est, mais bon, on ne sait pas trop pour le moment, on peut penser qu'il y a tout ça. En tous les cas, la Birmanie reste encore en guerre à l'intérieur contre des dissidents du Nord et l'armée reste très indépendante du pouvoir politique. Elle a même de droit un pourcentage de représentation au Parlement. Donc on peut penser que tous les problèmes de démocratie ne sont pas résolus dans le pays.
Oui, on se souvient que Aung San Suu Kyi avait finalement, et son parti, avait accepté, sans doute avec beaucoup de regrets, qu'il y ait cette entorse à une véritable représentation proportionnelle démocratique au Parlement. Cette présence deux militaires, effectivement, c'est quelque chose qui est insupportable dans toute démocratie, là.
Un mot d'Argentine aussi, où Videla vient de mourir, alors celui-là, on va pas lui rendre hommage. 87 ans, il est mort en prison, il était le président d'un pays qui a fait disparaître au moins 30 000 personnes entre 76 et 81, donc un dictateur. Aujourd'hui encore, au moins 400 des enfants volés ne sont toujours pas identifiés. Et bien ce personnage donc a fini par décéder en prison. C'est une page qui se tourne, mais qui reste douloureuse pour toutes les familles et les proches des disparus de cette sinistre période.
Mais ce qui est important et on peut dire presque formidable, c'est que Kirchner, Christine Kirchner, la présidente, a tenu bon parce qu'elle était soumise depuis quelque temps à des pressions énormes pour dire bon, il va crever, vous pouvez le sortir de prison, c'est pas la peine qu'il crève en prison, etc. Elle a dit non, la loi on l'applique jusqu'au bout. Dans les prisons, il y a des hôpitaux et non. Elle a tenu bon, hein. C'est une femme courageuse, hein. Bon, elle a pas fait du socialisme comme a pu le faire les Vénézuéliens, mais je peux dire qu'elle a beaucoup de courage pour notamment cette page sombre de l'histoire d'Argentine.
Voilà, on vient vers l'Europe où il leur avance. Un mot de la manifestation de Rome, c'était samedi, une grande manifestation contre l'austérité, des dizaines de milliers de personnes, à un moment où le nouveau gouvernement revient sur la disposition qu'avait prise Monti et à la demande de Berlusconi, qui, on l'a dit dès le début, mais gouverne un peu en sous-main, qui a subordonné son soutien à cette mesure de suppression d'un espèce d'impôt qu'on appellerait en France impôt local sur les logements. Bon, avec les conséquences, on ne sait pas comment il va équilibrer ses comptes, mais c'est une perte de 8 milliards d'euros par an qu'il va falloir récupérer ailleurs, et dont on peut penser que c'est pas toujours un impôt qui tombait sur les plus pauvres, et avec sa suppression, eh bien, à nouveau, déséquilibre dans la situation italienne qui déjà n'est pas brillante.
On peut observer que les médias français ont été d'une remarquable discrétion sur ce grand rassemblement en Italie.
Oui.
Et pour cause, parce que c'est un gouvernement de centre-gauche, prétendument, hein, bien que c'est un gouvernement d'union nationale, et que finalement Hollande va essayer de s'acoquiner avec lui pour faire un peu un front face aussi bien à Cameron qu'à Merkel. Et donc, discrétion des médias sur cette grande riposte contre l'austérité.
C'est pour ça qu'on en dit quelques mots. Espagne, un banquier en prison. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Oh, remarquez, vous affolez pas, il restait qu'une journée. Hein. Mais quand même, le geste. Le président de la Bankia, c'est ce conglomérat de banques constitué de banques, enfin, j'allais dire de Bordeaux aussi, constitué au fil des années et qui est un peu à l'origine, en tous les cas, surfé sur la bulle immobilière pour arriver à la catastrophe qu'on connaît. Donc ce président est inquiété par la justice et il a passé 24 heures à prison avant d'être mis en liberté contre une caution. Rien, un peu de monnaie, d'argent de poche, 2,5 millions d'euros. Ben, il les a trouvés, figurez-vous. Le voilà donc libéré, cet homme-là. Mais il n'en a pas fini avec la justice pour autant.
On parlait de manifestation, simplement en une phrase revenir sur des grands rassemblements qui se poursuivent au Bangladesh, c'est les ouvriers et les ouvrières du textile. Hein. On se souvient le millier et au-delà de morts des usines qui n'en sont pas ou qui s'écroulent. Et donc les manifestations continuent, elles sont massives et ça, bon, ça amène le gouvernement au Bangladesh. Et aussi, ça doit amener les multinationales, dont certaines sévissent en France et en Europe, à s'interroger sur le capitalisme sous cette forme la plus détestable, c'est-à-dire se procurer des biens pas chers, faits par des ouvriers et des ouvrières mal payés, et en plus qui risquent tous les jours leur vie.
Voilà, on fait une pause musicale.
Oui.
On va la faire avec Aimé Césaire, parce que actuellement est donnée au TNP une pièce qui s'appelle Une saison au Congo. C'est un texte d'Aimé Césaire, mis en scène par Schiaretti. Et c'est, au point de vue date, on a assez largement le choix, puisque ça dure, où sont mes dates sur mon prospectus, je sais plus. Si, du 14 mai, donc ça s'est passé, mais jusqu'au 7 juin. Dans la grande salle à 20h30, donc pour plus de renseignements. Là, le texte d'Aimé Césaire, mis en musique et chanté par Bernard Ascal, que je vous propose en guise de pause musicale, s'appelle « Au bout, cette ville ». C'est un extrait du cahier d'un retour au pays natal.
Cette ville inerte et ses au-delà de l'être, de consomption, de famine, de peur, tapis dans les ravins, de peur, juché dans les arbres de peur, creusé dans le sol de peur, en dérive dans le ciel de peur, s'amoncelé et ses fumerolles d'angoisse. Matin, le morne oublié, oublieux de sauter. Au bout du petit matin, le morne, aux sabots inquiets et dociles, son sang impaludé met en déroute le soleil de ses poux surchauffés. L'incendie contenu du morne, comme un sanglot que l'on a bâillonné, au bord de son éclatement sanguinaire, en quête d'une initiation qui se dérobe et se méconnaît. Devant la boulimie, aux aguets de foudre et de moulin, lentement vomissant ses fatigues d'homme, le morne seul et son sang répandu, le morne et ses pansements d'eau, le morne et ses rigoles de peur, le morne et ses grandes mains de vent. Au bout du petit matin,
Bernard Ascal interprétait Aimé Césaire. Vous écoutez bien le Canu Info de ce lundi 20 mai 2013 avec Robert en duplex, Jean-Pierre dans les studios. On aborde la rubrique nationale et avec une rubrique sociale et politique, Robert.
Oui, politique, on peut peut-être parler du phénomène Montebourg qui a profité d'une petite montée au Mont Beuvray. Bon, c'est sur son territoire électoral, hein, donc c'est pas, il fait pas exprès pour se montrer un peu plus. Il a toujours suivi Mitterrand quand il y était, ou depuis, effectivement, il y va au Mont Beuvray. Mais naturellement, il avait beaucoup de journalistes derrière lui. Alors, je ne sais pas s'il les avait convoqués ou s'ils y étaient de leur propre initiative.
On peut lui faire confiance.
Alors, il a fait un compte rendu de sa première année à lui. Alors, extraordinaire, très content de lui. Voilà, je suis d'accord avec Hollande. Hollande est d'accord avec moi. On fait un travail exceptionnel avec mon ministère. Enfin, tout va bien, on peut dire en quelque sorte. Je dispose de moyens exceptionnels. Voilà. Alors, c'est. On peut penser que peut-être mercredi, le canard enchaîné va lui réserver la noix d'honneur parce qu'il la mérite. Il la mérite bien. Alors, en plus, il est allé, il a rappelé qu'il était pro-nucléaire, qu'il est pour le nucléaire, et qu'ensuite, il n'est pas contre le gaz de schiste. Alors, il dit que oui, il faut qu'on améliore un peu le système de récupération du gaz de schiste, mais une fois que ça sera fait, on va gagner un fric fou, on va économiser 20 milliards, il a déjà calculé ça, on va économiser 20 milliards en matière d'économie d'énergie. Et lui, en transfert sur l'énergie. C'est-à-dire que lui, il considère que de toute façon, on va continuer à croître en matière de consommation énergétique. Enfin, il n'est pas du tout dans l'épure d'une dimension nouvelle qui consisterait aussi à considérer qu'il faut peut-être voir à consommer moins d'énergie. Alors c'est donc ce Montebourg-là qui est apparu hier, qui donc n'a plus rien à voir avec le Montebourg qui était prêt de claquer la porte si Hollande ne l'avait pas retenu par par son veston. Non, ce n'est plus du tout le même Montebourg. Et on peut dire que c'est, sans faire de la philosophie de Café du Commerce, qu'effectivement, c'est l'évolution souvent de ces gens de la gauche du PS et des fois de la gauche même, hein, qui au bout d'un moment de pratique du pouvoir, eh bien se range tranquillement et puis trouve que c'est bien et qui n'ont pas du tout envie de faire de la place, hein. C'est un peu triste à considérer, mais l'homme est ainsi fait de faiblesse, hein. On en conclura ainsi.
Puis on en connaît un certain nombre.
L'évolution de Montebourg.
Même à Lyon, les anciens écolos, par exemple, on a des beaux exemples. Allez, continuons avec la rubrique sociale.
Oui, je voulais. Alors, les gens de Fralib, qui. Bon, Fralib, c'est l'entreprise de Gemenos. Qui est toujours sous le contrôle d'Unilever et qui fait des tisanes et notamment qui exploitait enfin les thés, tisanes et la grande marque l'éléphant.
Le seul fabricant de Tampax en France.
Voilà, bientôt 1000 jours de lutte, un millier de jours que la lutte est commencée, un millier c'est-à-dire 3 ans. Et toujours rien à l'horizon, c'est-à-dire que les promesses faites par le gouvernement que Fralib deviendrait une SCOP, une société coopérative ouvrière de production. Ça, c'était sûr. Dès que Hollande serait au pouvoir, ça ne traînerait pas. Et que si Unilever traînait les pieds, eh bien, on verrait ce qu'on verrait. Mais alors, c'est pas du tout ce qui se passe parce que Unilever vient d'être condamné pour la 3e fois sur sa proposition de plan de licenciement et de fermeture de l'usine. Et ça, c'est une décision de justice qui date du 28 février. Et depuis, aucune contrainte du gouvernement et de ses ministres, à commencer par Montebourg, mais aussi ministre de la Justice, pour que effectivement cette décision de justice soit suivie d'une mise en demeure d'Unilever de soit de partir, soit de présenter autre chose. Mais en fait, on sait que Fralib, l'idée centrale, et c'était le premier cas d'école, devait devenir une coopérative ouvrière. Et vraiment, ça n'aurait dû faire aucun problème, ça devrait être fait depuis longtemps. Deuxième sujet, rapidement, qu'on va évoquer, c'est l'entreprise Pilpa à Carcassonne qui fabrique des glaces. Hein. C'est un glacier, on appelle ça un glacier, mais c'est pas au niveau c'est peut-être qu'ils ont au niveau des consommateurs courts, mais c'est surtout ils livrent à des grandes entreprises et notamment ceux qui livrent également Carrefour, Disney aussi, Disneyland, Disney qui était livré. Alors c'était il y a peu de temps encore une coopérative agricole de la région de Toulouse. Et puis cette coopérative agricole a décidé de vendre. On comprend pas d'ailleurs. Mais c'était sous la droite, ça. L'autorisation a été donnée de vendre cette coopérative à une société anonyme britannique, R&R, elle-même contrôlée par un fonds d'investissement américain qui s'appelle Oaktree, hein, c'est son nom, qui contrôle cette entreprise britannique. Et en fait, ce fonds américain d'investissement, il ne cherche que, comme tous les fonds d'investissement, à produire avec toutes les entreprises qu'il contrôle, qu'il peut contrôler, des profits pour les actionnaires de l'ordre de 10 ou 15%. Donc, truc à deux chiffres. Et donc, dans ce groupe de haut prix et de R&R, il y a beaucoup d'entreprises qui dans le monde hein, qui sont en mauvais état. Mais par contre, l'entreprise Pilpa à Carcassonne, elle produisait encore des résultats puisqu'elle a fait encore 2 millions de bénéfices bruts l'année dernière. Et bien voilà, il faut renflouer et donc pour renflouer, le fonds d'investissement a décidé donc de vendre les bijoux de famille. Et c'est un tout petit bijou de famille qu'elle va disperser en vendant un peu les machines. Et puis naturellement, ça va faire 180 salariés qui risquent d'être victimes. Victimes, alors c'est assez curieux parce que d'un plan de sauvegarde de l'emploi, mais en fait c'est simplement pour les refiler à Pôle emploi ou à d'autres pour qu'ils s'en occupent. Voilà, donc ces fameuses entreprises victimes des licenciements boursiers. Alors le Front de Gauche s'est battu au Parlement pour que tout de suite le gouvernement prenne en compte et fasse voter cette loi pour contraindre à faire que ces licenciements boursiers n'aient plus lieu. Mais en fait, ça continue. Et dans ce cas-là, par exemple, sur le PILPA, aucune réaction gouvernementale. D'autant que les bénéfices en plus du groupe de ce fonds américain sont placés, devinez où, aux îles Caïmans ainsi qu'au Luxembourg. Donc, même au sein de la communauté, donc de l'Eurogroupe, de la communauté européenne. Hein, le fruit, et le ver est dans le fruit, mais c'est pas nouveau. Voilà, donc deux cas, des cas d'école sur lesquels, effectivement, le gouvernement est muet.
Un troisième, on peut le citer, c'est Spanghero, donc, qui est en passe qui présente sa candidature à la reprise de sa boîte qu'il avait vendue. Bon, on sait le scandale qu'il y a eu avec les viandes frelatées et mélangées malicieusement. Il y a un autre plan proposé par les salariés. On peut penser qu'ils n'auront pas le financement à la hauteur suffisante. Peut-être que Spanghero prépare aussi un plan qui associerait les salariés à sa... Voilà donc un retraité qui se remet au boulot après 60 ans, largement d'ailleurs. Reste à savoir si le tribunal lui accordera crédit, à supposer qu'il trouve les 4 millions d'euros dont il a besoin pour reprendre cette somme affaire ancienne. Et puis un mot de Peugeot Citroën à Aulnay, puisque la grève était en place depuis le 16 janvier 2013 et que mardi, demain, le 21 mai, va s'opérer une reprise suite à un accord avec abandon de toute poursuite du côté patronal comme du côté syndical contre des diverses atteintes qu'on pourrait reprocher aux uns et aux autres au fil de ces 4 mois de conflit. Voilà, tu avais autre chose, Robert?
On a entériné avec tristesse la semaine dernière le vote définitif qui va mettre en route l'accord national interprofessionnel, donc qui va permettre aux entreprises d'être beaucoup plus à l'aise pour licencier, et ce sujet rejoint le précédent, puisque la fameuse flexibilité va être largement l'enjeu des prochains mois dans le rapport de force, et que la sécurité, elle, va sans doute reculer du côté du monde du travail. Et puis, une espèce de préface sur ce que va être la discussion entre les syndicats patronaux et les syndicats de salariés au sujet de la réforme des retraites, qui va se ressembler à un prolongement de la retraite telle que l'a déjà fait en partie entériner la droite à l'époque de Sarkozy, et malgré la bataille qui avait été menée, puisque dans sa conférence de presse, Hollande n'a pas caché que, eh bien, on allait travailler plus, et puis cotiser, travailler un petit peu plus, et cotiser également plus. Bon, enfin, là-dessus, avec son petit côté bonhomme, il a annoncé ça tranquillement. Voilà, c'était inévitable, vu que on allait vieillir davantage. C'est-à-dire, alors qu'il y a des tas d'autres choses par rapport à la durée du travail qu'il faudra bien partager, parce qu'il y a pas du travail dans les sociétés modernes pour tous. Eh bien, travailler plus, lancé.
Oui.
Il y a peut-être des compléments là-dessus sur cette question.
Non, là-dessus, non, mais je voulais traiter d'autres sujets rapidement.
Alors,
cette polémique autour de l'anglais à l'université, quand on en sera venu à faire les cours de français en anglais, ça va être assez bidonnant. Hein. Pour le moment, la proposition, c'est de faire des cours scientifiques en langue anglaise dans les universités françaises. Inutile de vous dire que tout le monde n'est pas d'accord. On aime bien être colonisé, mais à ce point-là, il y a vraiment des gens qui... Tout ça au prétexte qu'il y a beaucoup d'étudiants étrangers en France, c'est que c'est très intéressant pour nous, à divertir, et que donc il faut pas rebuter ces chères petites têtes blondes qui ne parlent pas français et qui veulent quand même venir à l'université en France. Ça suivra. Et puis cette recommandation de l'ONU, assez bidonnante aussi, et surtout les réactions de l'État français qui a tout fait pour que la déclaration ne soit pas faite, mais l'ONU, avec sans doute quelques suppôts à l'intérieur de la thèse, demande que la Polynésie française soit décolonisée. Alors, juste après les élections de Gaston Flux, qui lui crie c'est odieux que les Polynésiens ont déjà voté et qu'ils ont voté leur rattachement à la France. Donc, c'est pas du tout bien vu. Il semble que le pouvoir français, le gouvernement, a tout fait pour éviter que cette sentence-là soit prononcée. Nous, elle nous plaît pas mal, quoi. L'ONU, donc, demande que soit ouverte la voie à un référendum sur l'autodétermination. On est très vexés, à droite comme à gauche, dans les sphères du pouvoir.
Mais c'est ce qu'on oublie de dire, c'est qu'en fait, l'ONU, elle a d'autres petites îles comme ça, qui sont dans la même situation, qui sont colonisées actuellement soit par la Grande-Bretagne, soit par peut-être même les États-Unis, et qui devraient être soumis à la même recommandation.
Voilà, quelques infos culturelles, et presque 8 heures pour terminer ce journal. Ben, le festival Brut de Fabrique à l'Iris, ça commence mardi 21. Impossible de vous donner le programme, il y a trop de choses. C'est en général des spectacles bruts de fabrication, c'est-à-dire en cours d'élaboration, ou qui viennent d'être terminés, mais on peut découvrir des pépites. À vous donc de piocher, soit dans le petit catalogue qu'on trouve un peu partout, ou alors plus simplement sur Internet, où il existe aussi. On dira aussi que Green All Right avec Bob Solo en première partie sera au Palais de la Mutualité à 20h ce jeudi, le palais qui est un place Antonin Jutard à l'initiative de À tout bout de champ. Que Gérard Mémone avec son groupe MCR donnera un spectacle au bar No Man's Land le 14 rue Paul Lafargue à Villeurbanne, ça c'est vendredi. Et puis l'AMI, Association nationale de défense des malades, invalides et handicapés, propose du mercredi 22 au samedi 25 de 10 à 18 heures une exposition rétro, ils appellent ça, dans le cadre du CCAV à Villeurbanne, 234 cours Émile Zola. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que le 27 mai, c'est le 70e anniversaire du Conseil national de la Résistance, le 27 mai 43, donc 27 mai 2003, et que il sera inauguré à cette occasion une place du 27 mai 43 à Vaux-en-Velin avec la ville qui sera présente, bien sûr, le maire et que durant toute la semaine qui précède, eh ben, il y a une série de manifestations, essentiellement des films autour de la résistance du 21 au 28 mai, tantôt aux Alizés, tantôt la salle de Vouhenvelin qui s'appelle Les Amphis. Ça y est, j'ai retrouvé un Pierre Bénite. Enfin, on pourrait revoir comme ça, faire quelque chose. La bataille du rail, l'armée du crime, laisser passer. Là aussi, je pense, pour en savoir plus, peut-être taper Conseil national de la résistance à Nacre. On doit pouvoir trouver beaucoup d'informations. Et puis, pour terminer, je crois, oui, c'est ça, à la Renaissance, à Oullins, du 30 mai au 7 juin, Matamor, c'est un spectacle du cirque Trottola par le petit théâtre baroque sous chapiteau. Voilà, ce Canu Info se termine. Il sera rediffusé demain matin à 8h. Nous vous souhaitons une bonne soirée à l'écoute de Radio Canu. Et vous pourrez également le réentendre sur Internet, normalement dès ce soir. Et puis on se quitte sur la musique d'un groupe qui sera ce 31 mai à Salaise-sur-Sanne pour un concert de country, un concert annuel. Là, il s'agit des Truckstopple Rules. Bonsoir et à la semaine prochaine. Et ne quittez pas l'antenne.